Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, chrétien, protestant, catholique ou d'une autre religion ou même sans religion, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Rien à craindre de Dieu, tout à espérer pour chacune et pour chacun. Nous nous présentons ensemble devant ce Dieu de grâce et de miséricorde avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret qui est au début du psautier français « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Bienvenue à chacune et chacun dans cette maison, donc. Bienvenue en particulier à Alexandra Chevalier qui a demandé à faire sa profession de foi chrétienne dans notre église de l'Oratoire ce matin. Alors Alexandra a choisi de nous faire entrer dans ce culte par la louange avec le début du psaume 118 que nous entendons maintenant et que nous chanterons ensuite. Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, éternel est son amour. Voici le jour que fit l'Éternel, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, ô Éternel, donne le salut. Donne, ô Éternel, donne ta victoire. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Dieu, l'Éternel, nous illumine. Tu es notre Dieu et nous te rendons grâce. Tu es notre Dieu et nous te célébrons. Rendez grâce à l'Éternel car il est bon. Éternel est son amour. Dans mon angoisse, j'ai crié vers l'Éternel et lui m'a exaucé. Il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Qui sera contre moi? L'Éternel est avec moi pour me défendre et moi je braverai mes ennemis. Mieux vaut s'appuyer sur l'Éternel que de compter sur la puissance humaine. Mieux vaut s'appuyer sur l'Éternel que de compter sur les puissants. Alors nous allons donc essayer de chanter le psaume 118, les strophes 1, 5 et 6 de ce psaume qui est le grand Alléluia. prendre place. Et Alexandra nous propose de poursuivre dans l'écoute de ce que Dieu nous propose de vivre avec le début du psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent pas l'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit, Éternel, tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai pas à la vue de tous tes commandements et je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Tu veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment un jeune rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Et voici la parole, voici les commandements que nous a donné le Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Et puis face à cet idéal infini de l'amour, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon, mais surtout son aide pour arriver à avancer. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Éternel, Éternel, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours l'on puisse se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi mon âme attend l'Éternel. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Car près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut, il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Amen. Mais voici ce que déclare l'Éternel à chacun et chacune d'entre vous. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime, toi, d'un amour éternel. Et en Christ, l'Éternel notre Dieu se penche vers nous et nous dit : Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Vous pouvez prendre place. Alexandre. Frères et sœurs, comme le Christ nous a accueillis dans son Église, nous accueillons aujourd'hui avec grande joie Alexandra. Après avoir été conduite par Dieu directement dans son cœur à connaître la vérité de l'Évangile, après avoir lu la Bible du début jusqu'à la fin et puis continuant à l'étudier, Alexandra demande à être reçue comme membre de l'Église chrétienne et en particulier membre de l'Oratoire du Louvre. Au moment où Alexandra va être reçue comme membre de l'Église, nous l'entourons de notre affection et de notre prière et nous écoutons avec elle ces paroles de l'Évangile selon Jean qui nous disent la foi en Christ. Jésus-Christ est le pain de vie, celui qui vient à lui n'aura jamais faim et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Jésus-Christ est la lumière du monde. Quiconque marche avec lui ne sera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est la porte des brebis. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il entrera, il sortira en liberté et il trouvera la vie. Jésus-Christ est le bon berger. Il connaît ses brebis et elles le connaissent et il donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra au-delà même de la mort. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Par lui, chacun peut aller au Père. Et Jésus-Christ est la vraie vigne et son Père est le vigneron. Celui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits. Et l'apôtre Paul nous encourage ainsi à vivre cette foi en Christ. Toi donc, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Alexandra, avec toute l'Église chrétienne, voulez-vous confesser votre foi ?
Oui, je le veux. Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Voilà, parce que en fait, ça, c'est la confession de foi minimale qui est demandée aux gens, de reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur. Alors ensuite, on peut expliquer, avoir sa foi personnelle, ses idées personnelles, bien sûr. C'est ce que vous avez choisi de faire en préparant une confession de foi personnelle. Vous l'avez affiné, choisi les mots qui vous correspondent. Et donc, si vous pouvez nous partager ce texte, ces mots, bien, ça sera pour nous une joie. Et donc je vous invite à vous lever pour vous unir à cette confession de foi chrétienne que nous a préparée Alexandra pour ce jour.
Je crois, et croire c'est annoncer que grâce à Jésus de Nazareth, on pressent que Dieu est le Dieu des vivants et qu'il peut le bonheur des hommes et qu'il n'a rien à voir, rien, avec la souffrance et le malheur. Seigneur, tu m'as toujours donné la force du lendemain. Et bien que faible aujourd'hui, je crois. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles. Dieu est amour, c'est ce que nous croyons. L'homme n'est pas seul, nous le sommes jamais. Nous croyons en Dieu, le Fils s'est fait homme, il est mort et ressuscité, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les hommes, toutes les barrières de religion, de classe, de race et de culture, afin de créer une humanité unie dans la justice et la liberté.
Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous proposons des engagements aux personnes qui font une profession de foi ou un baptême d'adulte, puisque ces gestes, ces temps importants, eh bien, sont plus le début d'un cheminement que le terme, comme si on était déjà arrivé à être aussi parfait que Jésus-Christ. Ça, c'est sûr qu'on peut le noter, et c'est aussi une promesse d'être accompagné par Dieu dans cette route. Croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui, car il est notre Sauveur, et c'est s'engager à le suivre, car il est notre Seigneur. Alexandra, voulez-vous donc, avec le secours du Saint-Esprit, vous efforcer de vivre en chrétienne, en aimant Dieu de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même?
Oui.
La vie de l'Église, en particulier la lecture de la Bible et la prière personnelle chez soi, le culte et la communion, sont des moyens que Dieu nous donne pour persévérer dans la foi qui nous est commune et pour être fidèles au chemin que nous ouvre le Christ devant nos pas. Alexandra, vous avez autrefois reçu le baptême, signe de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi. Nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église chrétienne, l'Église au sens large, c'est-à-dire cette communauté de tous ceux et toutes celles qui cherchent Dieu en Christ. Vous avez désormais votre place pleine et entière dans cette Église et au travail de cette Église, par le témoignage, par l'engagement, par des gestes de paix pour vos frères, pour vos sœurs. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, vous accorde ses dons et vous les renouvelle jour après jour. Alors c'est pour nous une reconnaissance d'avoir Alexandra parmi nous. Alexandra est très ouverte, très sensible à la présence de Dieu, à l'action de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. Alors, suite à cette expérience, finalement, de Dieu dans notre vie, elle a cherché à savoir un peu ce que c'était que Dieu, par la réflexion, mais aussi par la lecture de la Bible. Peu à peu, en 4 ans, vous avez lu la Bible du début jusqu'à la fin, et puis encore, tous les jours, vous cherchez à lire un passage. Vous avez aussi cherché à travers diverses églises, l'Église catholique, diverses églises protestantes, et ô combien y en a-t-il ? L'Église messianique aussi, avec un mélange entre la foi juive et la reconnaissance que Jésus est le Messie. Et puis finalement, vous vous demandiez si ce qui vous correspondait le mieux était peut-être de rester chez vous et creuser votre foi ainsi, d'une manière un peu solitaire finalement, dans cette réflexion, dans cette prière, dans cette lecture de la Bible. Et puis c'est une amie, Laure de la Tour, qui vous a encouragé à chercher à avoir cette dimension collective en plus de la dimension personnelle. Et voilà, vous êtes venu ici à l'oratoire et vous êtes peut-être senti un peu chez vous. En tout cas, pour nous, nous vous accueillons avec grande joie dans cette église et nous sommes heureux de pouvoir vous connaître un peu mieux et donc peut-être vous accueillir encore un peu mieux. Alors votre présence parmi nous ce matin, ce courage de professer sa foi, cet élan, c'est pour nous un cadeau. Et nous voulons le recevoir, ce cadeau, avec reconnaissance. Donc merci beaucoup, Alexandra, et nous voulons prier ensemble pour vous. Ô notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour, et en particulier pour cette présence, pour cet esprit que tu nous donnes et qui nous permet de te découvrir, non seulement de te connaître, mais de t'expérimenter, de recevoir en nous une force, de recevoir un éclairage, de recevoir une impulsion qui nous guide vers toi et qui nous guide vers les autres. Notre Père, nous te remercions pour Alexandra que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Grande est notre joie et plus grande encore, nous le savons, est dans le ciel pour cet élan vers toi, ce moment de confiance en toi, cette impulsion. Fortifie notre foi et qu'Alexandra parmi nous puisse être quelqu'un qui fasse grandir notre foi et qu'elle-même, avec nous, puisse grandir dans sa foi. Sa venue est un geste de courage et un geste d'humanité vers ses frères et sœurs. Fais de nous, à nous-mêmes, jour après jour, dimanche après dimanche, année après année, à nous approcher sans cesse plus de toi, à être plus confiants dans ta parole, à avoir plus de courage pour témoigner de ce que nous avons dans le cœur pour les autres, à être ouverts aussi au témoignage de ce que nous apportent les autres. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Amen. Grand merci, Alexandra.
Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité, pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles, dispose nos cœurs, afin que nous recevions ensemble et maintenant la connaissance du salut que tu accordes aux hommes. Amen. Alors nous lisons le texte du jour, qui est dans l'Épître aux Hébreux, quelques passages du chapitre 4 et un petit passage dans le chapitre 5. Quels sont ceux qui ont entendu la voix de Dieu et se sont révoltés contre lui? Ce sont tous ceux que Moïse a conduits hors d'Égypte. Contre qui Dieu a-t-il été en colère pendant 40 ans? Contre ceux qui avaient péché et qui moururent dans le désert. Quand Dieu a fait ce serment, ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. De qui parlait-il? Il parlait de ceux qui s'étaient révoltés. Nous voyons en effet qu'ils n'ont pas pu entrer dans ce lieu de repos parce qu'ils avaient refusé de croire. Un peu plus loin, par conséquent, il est encore possible pour d'autres d'y entrer. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour appelé aujourd'hui. Il en a parlé beaucoup plus tard par l'intermédiaire de David dans ce passage déjà cité. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. En effet, si Josué avait conduit le peuple dans ce repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Ainsi, un repos semblable à celui du septième jour reste offert au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, faisant en sorte qu'aucun de nous tombe en refusant d'obéir comme nos ancêtres. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est à nu, à découvert, et c'est lui que nous devons tous rendre, à lui que nous devons tous rendre compte. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'à la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Le Christ également ne s'est pas accordé lui-même l'honneur d'être grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a déclaré « C'est toi qui es mon Fils ». À partir d'aujourd'hui, je suis ton père. Et ailleurs, il a dit aussi, tu es prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisédek. Je vous invite à chanter au cantique 222. Les strophes 1, 2 et 3. Que la moisson du monde est grande, suscite au Dieu des moissonneurs. Descendent, bénis par tous tes serviteurs, et que ton règne glorieux sous tous les cieux, revêt de force leur faiblesse et saint leur rein de celle ardente toujours les presses, remplit leur cœur de charité, et que ton règne glorieux s'étende ainsi sous tous les cieux. Hâte ce jour, ô notre Père, devant toi sur notre terre, tous les genoux devront fléchir, où toute langue à ton honneur dira que Christ est le Seigneur. Dieu notre Père, tu viens vers nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens vers nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos illusions. Tu viens vers nous dans la sainteté et nous allons vers toi avec nos lâchetés. Donne-nous la joie de découvrir ton chemin. En Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité, il nous conduit vers toi pour y vivre dans la joie de l'Esprit, l'amour qui défie les siècles des siècles. Le président Nicolas Sarkozy, en 2007, promettait le changement. Le président François Hollande, en 2012, affirme « Le changement, c'est maintenant ». C'est ce que la presse et les médias, plus généralement, nous ont abondamment rappelé ces derniers mois. Et ce débat constitue encore notre actualité. Mais pour nous rassembler ici ce matin, il y a une autre actualité. Une autre actualité qui nous sollicite et nous interpelle, c'est ce texte de l'Épître aux Hébreux, dont la pointe peut se résumer ainsi : le salut, c'est aujourd'hui. Le changement, c'est maintenant. Le salut, c'est aujourd'hui. D'un côté, les médias, d'un autre, le texte biblique. Cela évoque pour moi ces paroles du grand théologien réformé du XXe siècle, Karl Barth, qui disait que la prédication de l'Église se construisait le journal dans une main, la Bible dans l'autre. C'est cette tension que je voudrais explorer avec vous ce matin, la tension entre le changement voulu, désiré, souhaité, promis, et le salut offert, donné. Pour cela, à partir d'un regard porté sur ce qu'on appelle l'actualité, nous allons cheminer avec les destinataires énigmatiques de cette épître, avec le peuple hébreu au désert et avec nous-mêmes aujourd'hui. Tous, nous sommes candidats au changement et tous, nous sommes au bénéfice de ce salut offert une fois pour toutes dans un aujourd'hui durable et irrévocable. Alors tout d'abord, le changement. On sait ce qu'il advient à ceux qui, gourmands de promesses, durant les campagnes électorales, nous bercent d'illusions en annonçant le changement. Les uns sont renvoyés, les autres déçoivent très vite. C'est comme si tous, finalement, nous étions enfermés dans le mensonge. Les uns enfermés dans le désir de croire, les autres enfermés dans des paroles éloignées souvent de la réalité et de la vérité. Et ici que personne ne se méprenne, lorsque j'emploie le mot de mensonge, je ne vise pas tel ou tel homme politique pris en flagrant délit de contre-vérité, mais je désigne simplement ces faux-semblants qui fréquemment caractérisent le discours politicien, comme si la conquête du pouvoir ou sa pérennisation nécessitait que soit masquée la vérité. Ils flottent comme un air de dissimulation lorsque nos politiciens s'expriment. On ne sait plus très bien ce qui domine dans leur comportement, leurs gestes et leurs propos. Dans tout l'éventail des sensibilités qui composent le paysage, non pas de l'opinion publique, mais de ceux qui sont censés la représenter, on peut à juste titre se demander ce qui est en jeu. La ferveur du service, la soif de pouvoir, en tout cas, la lucidité paraît souvent absente. On peut même craindre que les divisions de façade qui s'affichent entre partis, entre clans au sein d'une même famille politique, sont là pour distraire du quotidien les citoyens en souffrance. La petite lucarne qui règne en la plupart de nos foyers en est l'instrument, instrument d'autant plus pernicieux qu'il formate, au dire de ses propres responsables, les esprits pour qu'ils soient dociles et prêts à entendre une vérité et son contraire, pour peu qu'elle soit soigneusement présentée dans de pseudo-débats caricaturaux et superficiels. Alors oui, le changement, on en a besoin. Le peuple, nous tous, nous avons besoin de vérité et nous avons besoin de sérénité. Il est insupportable, alors que des informations de plus en plus inquiétantes sur l'état du monde nous rejoignent, que dans une méconnaissance de la réalité ou dans une inconscience manifeste, certains de nos dirigeants s'évertuent à en éluder la gravité. Pourtant, on le sait bien, le meilleur moyen d'éviter la catastrophe, c'est d'avoir la certitude qu'elle s'approche. Il y a bien sûr, dans la classe dirigeante, politique ou économique, des hommes et des femmes de bonne volonté, mais aujourd'hui, la bonne volonté ne suffit plus, alors qu'il s'agit, en toute lucidité, dans un discernement aigu de la vérité, de répondre à des défis que l'humanité n'a probablement pas connus depuis très longtemps. Alors oui, le changement est un slogan à la mode, il fait patienter. Pourtant, entre nous, ce mot ne veut rien dire, ou plutôt il veut tout dire, ce qui revient au même, puisque si l'on sait à peu près d'où l'on vient, nous ne savons pas très bien où nous en sommes. Les diagnostics sont multiples, contradictoires, en perpétuelle évolution. Quant à savoir où nous allons, et si d'ailleurs nous pouvons le vouloir et le maîtriser, alors là, les incertitudes sont majeures et bien entendu génératrices de tensions, de conflits et de violences. Ainsi, le changement est un mot vide, mais il nous occupe et nous préoccupe. Il est un effet de langage dans lequel tous, plus ou moins complices, nous nous engouffrons pour ne pas voir la réalité. Aussi, je vous propose de laisser tomber ce vocable, d'abandonner ce mot, ultime avatar d'une religion séculière qui veut nous faire croire que demain l'histoire s'achèvera nécessairement dans le meilleur des mondes possibles. Tout laisse à penser que ce monde meilleur consistera en un bonheur douceâtre, fait de loisirs préfabriqués, de nourriture standardisée et d'inégalités soigneusement régulées pour que le vivre ensemble perdure sans que n'éclate de trop vives remises en question de l'ordre établi et de nos modes de vie. Vous savez, l'American Way of Life, que le président Bush père avait décrété non négociable. On nous promet le changement, mais on ne peut pas faire autrement, disait Madame Thatcher. Alors me direz-vous, et pour reprendre la question d'Emmanuel Kant, que pouvons-nous espérer ? Si le changement n'est que mensonge et subterfuge, sans objet véritable, oui, que pouvons-nous espérer ? Il me semble qu'à cette question, le texte que nous avons lu aujourd'hui offre la rupture nécessaire pour sortir de l'impasse. Si le changement promis pour bientôt ou pour maintenant n'est qu'un leurre pour nous maintenir dans une histoire sans avenir, par contre, l'annonce de l'apôtre, le salut, c'est aujourd'hui, fait littéralement éclater les contraintes d'un monde qui, rongé par ses égoïsmes, ses frontières, ses peurs, ses fausses sécurités, s'épuise à proposer le changement pour que rien ne change. Là où il y avait rafistolage, colmatage, replâtrage, la parole nous annonce dès aujourd'hui un salut, un repos véritable pour les cœurs fatigués et les corps blessés. dans un monde qui a voulu s'exonérer du Dieu vivant qui le conduisait, cette épître aux Hébreux nous éclaire à plus d'un titre. Alors, paradoxalement, cette épître nous éclaire par ses obscurités. On ne sait pas vraiment qui l'a écrite, on ne sait pas où et on ne sait pas quand. Par contre, on sait que très tôt, elle a été qualifiée épître aux Hébreux. Et là, nous devons deviner une symbolique très forte. Les Hébreux en question, probablement des chrétiens de Rome ou de Jérusalem ou d'Alexandrie, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas enseignés dans la nouvelle foi depuis longtemps, imprégnés probablement de culture juive, mais aussi familiers de la culture grecque. On le sait car les citations du Premier Testament dans cette épître sont toutes tirées de la Septante, la version grecque du texte. Sinon, rescapés d'une persécution, on sait qu'ils traversent une période trouble où leur foi est mise à rude épreuve. Et de fait, ils sont tentés par quelques gourous démagogues de judaïser, c'est-à-dire de se replier sur une application tatillonne de la loi, tentés de renoncer à ce commencement d'une véritable nouvelle histoire, pour regagner les lieux plus fermes de la vie commune comme elle avait toujours existé. Inquiets de l'avenir, nostalgiques du passé, il est nécessaire qu'ils réentendent comme des petits-enfants, dit l'apôtre, que c'est aujourd'hui que le salut est offert, que c'est aujourd'hui que l'occasion est donnée de se mettre ou se remettre en chemin à la suite de celui qui a tout accompli. En outre, si cette épître se nomme et s'adresse symboliquement aux Hébreux, c'est aussi parce qu'elle évoque et s'inscrit dans cette histoire du peuple juif, peuple prototype de tous les peuples, un peuple dont l'exode, l'errance au désert avec ses révoltes et ses idolâtries, le point d'arrêt au seuil de la terre promise du repos, ce peuple éclaire notre propre itinéraire dans ce temps de pérégrination qui est le nôtre, entre un passé dont on ne sait que faire, un présent lourd de confusion et un avenir improbable. Eh bien, cette épître, et en particulier ce passage, cette lecture du jour, est pour nous aujourd'hui le signe, le motif d'une espérance par-delà l'indéchiffrable actualité. Un motif d'espérance pour nous orienter, pour que nous reprenions notre marche sans trébucher. Je vous propose donc maintenant de revisiter cet arrière-fond de l'Épître, cette histoire du peuple hébreu, lorsqu'appelé par Moïse, il s'engage dans cette aventure que le chapitre 4 rappelle. La première impression que je retiens de cette lecture, c'est que nous avons affaire à un peuple malheureux, prêt à entendre toutes les promesses de changement. Après la grande joie que fut certainement cette sortie libératrice d'Égypte de toute une cohorte n'ayant pas d'autre identité commune que le désir de quitter une terre de servitude. On le sait, les enthousiasmes sont éphémères, la joie retombe, l'errance au désert est douloureuse, les certitudes s'effondrent vite et dans l'épreuve, toutes les déviances possibles se font jour. Les doutes s'installent, la confiance est minée, on assiste au surgissement de nombre de comportements qui témoignent fondamentalement d'une peur qui tenaille les esprits et les corps. La faim, la soif quotidienne font regretter ce temps de servitude, peut-être bien inconsciemment consenti, qui par-delà la privation de liberté, la surveillance incessante du garde du Pharaon, la course au rendement, les rythmes accélérés de travail, le rationnement des matières premières, avait au moins le mérite d'assurer le gîte et le couvert. Voilà que la soupe d'avant se fait regretter, que son goût amer s'estompe dans les mémoires et prend le relief d'un festin toujours assuré, même s'il était assorti du risque d'arbitraire, voire d'injustice. Et puis, il y a aussi cette tentation permanente de déstabiliser ceux qui, à un moment donné, se sont levés pour dire non, pour résister, ceux qui, dans une conjonction de circonstances, ont saisi l'occasion de poser les gestes qui bousculent l'inlassable répétition des esclavages quotidiens. Après la ferveur que suscite la découverte du héros, Moïse, ici, qui va procurer une vie meilleure, apparaît la fureur des jaloux, qui, contrits de ne pas avoir été à la hauteur de la situation, instillent sournoisement qu'ils auraient fait mieux, eux, si on les avait suivis. Et puis c'est vrai aussi, les chefs ne parlent pas toujours à l'unisson. Ils ne sont pas parfaits, même s'ils s'appellent Moïse ou Aaron. Et il est facile de désobéir, de saper l'autorité de celui ou de ceux qui, même contre leur gré, sont portés aux avant-postes pour incarner, ne serait-ce qu'un moment, l'unité d'un peuple, la sûreté d'un projet rassembleur, l'espérance d'un avenir apaisé. Mais pour ce faire, et c'est là une tentation aussi bien commune, il faut enfoncer le coin un peu plus profondément. Et le peuple pose alors la question fondamentale à Moïse. Au nom de qui nous avez-vous entraîné dans ce désert où manquent l'eau et le pain? Et de plus, quel est le sens de ces tours et détours que nous accomplissons, guidés par un vague nuage subtil ou une lumière incertaine? Votre Dieu n'a pas de nom, il se cache, et peut-être bien qu'il n'existe pas. Alors, poursuit le peuple, nous allons en trouver un, nous en donner au moins un, qui lui sera conforme à nos désirs. On connaît l'histoire du veau d'or, c'est une constante. L'or, dans les périodes de grande instabilité, est une valeur refuge incontestable, un placement sans risque. Et donc, en lieu et place de ce guide évanescent, les Hébreux mettent à leur tête un tas d'or, pour lequel ils se sont cotisés en apportant ce qui subsistait de leur épargne accumulée lorsqu'ils étaient asservis et maltraités. Au fond, le peuple d'Israël en gestation avait suivi Moïse, mais il avait pris une assurance sur l'avenir et avait emporté des richesses, même modestes, au cas où la manne viendrait à manquer, au cas où le pasteur du troupeau et son garant divin ne seraient plus crédibles. Et puis on le sait, ce peuple libéré, révolté, dans sa quête d'autonomie, ne connaîtra jamais cette terre où il devait vivre libre. Il s'arrêtera ou sera arrêté sur le seuil. S'il interpréta ce coup d'arrêt comme une vengeance du Dieu jaloux, on peut penser aussi qu'il ne savait pas entrer dans ce repos annoncé. Endurci par les années de servitude, usé d'avoir voulu construire lui-même son avenir en délaissant à maintes et maintes reprises ce Dieu qui finalement le guidait à travers les embûches du désert, ce peuple ne sait plus vivre apaisé, serein, au repos, dans la proximité de ce qui devait être sa patrie. L'offre de liberté originelle au fil des ans est devenue une quête d'autonomie surhumaine. Ce peuple-là, épuisé, n'a plus la volonté de franchir cette ultime frontière, un petit ruisseau, le Jourdain, à côté de la grande mer qu'on avait traversée dans l'allégresse. La naissance était joyeuse, la maturité fut peureuse. Aussi, il s'en tiendra là et se laissera mourir à l'approche du but. En 40 années de désert, les fils et les filles ont grandi, ils passeront, eux. Tous ces changements depuis 40 ans ont émoussé la tente des anciens. Quand Moïse était fatigué, on lui soutenait les bras pour que la victoire soit acquise et que la marche reprenne. Aujourd'hui, le peuple baisse les bras. Les enfants, les petits-enfants se chargeront de l'avenir. Ils passeront, eux, de l'autre côté du Jourdain. Ils se débrouilleront avec cette terre où ne coulera pas toujours le lait et le miel. Les rescapés d'Égypte sont fatigués. Ils n'ont plus la force de croire au salut. Un salut, cependant, qu'aujourd'hui encore, Dieu offre à ceux qui s'en emparent. Car nous y voilà, vous l'avez pressenti, vous l'avez soupçonné, cette longue histoire du peuple juif à laquelle cette épître aux Hébreux renvoie les premiers chrétiens déjà fatigués de croire, c'est bien entendu aussi notre histoire. L'histoire de notre nostalgie, d'un monde qui échangeait les contraintes et les aliénations contre la bonne soupe des hypermarchés, du crédit facile, du surendettement, de l'essence en abondance. C'est aussi l'histoire de notre quête orgueilleuse, d'une autonomie revendiquée, enserrée toujours entre les victoires exaltantes et les défaites désespérantes. Et quand la peur est trop forte, l'angoisse étouffante, alors, ayant perdu la confiance, nous nous fabriquons des divinités de substitution à notre portée. Par exemple, la croissance, dont on nous annonce le retour tôt ou tard, comme le Messie, la confiance immodérée dans le progrès technique dont on ne sait ou ne veut pas mesurer les dégâts. Et il y a même aujourd'hui cette tentation de la sécurité à n'importe quel prix, dans un monde qui veut s'assurer contre tous les risques. Mais nous ne sommes pas là pour déplorer l'état du monde et de notre société et faire le catalogue de nos religions séculières. D'ailleurs, de tous bords, on nous dit que cela peut encore changer, qu'on va se retrouver comme avant. C'est une question de semaines, de mois, ou au pire de quinquennat. Les hommes et les femmes de pouvoir sont là pour nous rassurer, ne demandent qu'à être crus. Pourtant, ce que nous dit aussi l'Épître aux Hébreux, c'est que par ailleurs, il faudra passer par l'épreuve de vérité. La vérité d'une parole qui, comme une épée à double tranchant, sépare le vrai du faux, met en pleine lumière les falsifications et les promesses trompeuses. Mais nous n'avons plus besoin de promesses, car cette fois-ci, une fois pour toutes, le salut nous a été offert dans un aujourd'hui éternel qui nous délivre de toutes nos peurs. Les Hébreux, destinataires de l'Épître, croyaient qu'en réactivant les rites des anciens, la vie serait meilleure, l'avenir serait plus souriant. Ne nous laissons pas tenter par la nostalgie d'un passé dont la page se tourne. Il n'y a plus de place pour les tentatives désespérées de restaurer un monde qui passe. Ne nous laissons pas non plus inquiéter par un futur incertain et dans la confusion du présent. Soyons sûrs que la vérité trace son chemin. La vérité du Christ, homme véritable, la vérité du Christ n'est pas une vérité religieuse pour nous distraire de ce temps qui passe, par des promesses de changement à bon marché. La vérité du Christ est là à portée de main pour transfigurer notre présent, en tenant à distance tous les faux fuyants destinés à nous plonger dans une somnolence mortelle. La vérité du Christ n'est ni nostalgie, ni fuite en avant. Elle nous tient éveillés pour que, dès aujourd'hui, pour chacun de nous et pour nous tous, se lève la nouveauté d'un présent de justice et de paix. C'est cela, le salut et le repos offert. Ainsi, l'Église que nous sommes, est plus que jamais investie pour annoncer et témoigner de ce repos salutaire. Plus que jamais, elle est investie de la mission prophétique de mettre en garde le monde contre ses démons et ses idoles, de le confondre au spectacle de ses maux et de ses déviances, mais surtout de lui rendre l'espérance, de lui redonner confiance en un avenir de paix, de justice, de liberté, de bonheur et de fraternité. Aujourd'hui, c'est aussi cela, le salut. Alors, le grand passage, la grande transition qui s'impose ne se fera pas dans la crainte et le désarroi, mais dans la ferveur et l'allégresse des commencements. Dans son langage bien particulier, l'auteur de l'Épître nous remet en mémoire ce personnage mystérieux, Melchisédek, roi de Salem. La justice et la paix en personne, comme son nom et son titre l'évoquent, dont le Christ nous est présenté comme le grand prêtre d'une religion qui en fait n'en est pas une, car délivré de tout ce qui rend pesant le temps qui passe, nous sommes libres. C'est cela notre seule et unique religion. Libres pour être simplement des témoins actifs, de celui qui, une fois pour toutes, a combattu jusqu'à la vie promise, la vie en abondance, pour que la paix dans les cœurs et entre les hommes s'établisse, pour que la justice à laquelle tous aspirent se déploie. Le salut n'est pas une promesse abusive, il n'est pas un lendemain qui chante, il est encore moins un passé regretté, il est l'aujourd'hui de Dieu, qui illumine nos vies, qui éclaire notre histoire, trace notre chemin et nous comble de bienveillance et de reconnaissance. Amen.
Thank you.
Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 297, les strophes 1, 2 et 3. Ô Dieu,
prendre place. Un grand merci au pasteur Jean-Pierre Rive donc pour cette prédication. Alors Jean-Pierre est, je ne sais pas comment ça s'appelle, président de la commission d'éthique de la Fédération protestante, quelque chose comme ça. Enfin voilà, donc, et puis nous le connaissons bien parce qu'il est là très souvent. Donc nous avons, j'ai une annonce à faire à propos de la permanence pour déposer des objets pour la vente. Vous savez que chaque année, le premier week-end de décembre, en fait là ça tombe fin novembre, début décembre, nous avons une brocante géante, j'allais dire, dans cet oratoire, au profit des démunis, par le biais du service de l'entraide de l'oratoire. Et donc vous pouvez commencer à trier dans vos greniers, dans vos caves et dans vos placards, pour sortir les objets dont vous voudriez faire don pour la vente. Il y aura des permanences les samedis 17 et 24 novembre après-midi, 18 et 25 novembre au matin, pour accueillir ces objets. Deuxième annonce, il y a une dame coréenne venant en France pour devenir professeure qui cherche une chambre à louer dans une famille ou chez une personne âgée, par exemple. Les annonces pour les activités de la semaine, il y a lundi le cours de grec pour débutants qui a lieu à 19h30 en face, donc aux 4 rues de l'oratoire. Jeudi, il y a une conférence débat, ce qu'on appelle une disputatio dans la tradition donc des disputes théologiques. Alors ce n'est pas une dispute où on se jette normalement des injures à la figure, au contraire, c'est justement pour parler d'une manière réfléchie, d'une manière apaisée, de sujets conflictuels. Alors le sujet du jour, vous n'êtes pas sans l'avoir remarqué peut-être dans la presse, c'est « Faut-il ouvrir le mariage à des couples homosexuels ?» Donc il y aura un débat entre le pasteur Antoine Nuis, qui est aussi le rédacteur en chef du journal Réforme, et moi-même, et puis avec une participation bien entendu des personnes qui viendront assister ou participer. Alors ça sera en face, aux 4 rues de l'oratoire, salle Mono, donc au deuxième étage. Samedi à 18h, ici même, il y a un concert spirituel autour d'une cantate de Bach, la cantate 192, « Rendez tous grâce à Dieu ». C'est à l'occasion de la Réformation, c'est-à-dire de cette mémoire du geste de Luther qui a affiché ses 95 thèses fin octobre 1517. Donc pour la fête de la Réformation, Jean-Sébastien Bach a écrit 3 cantates, dont celle-ci, la 192. Et puis, c'est un geste, un clin d'œil. Et bien, la méditation au cours de ce concert spirituel sera donnée par Jérôme Prigent, qui est père oratorien en poste à l'église Saint-Eustache. Effectivement, c'est un clin d'œil que je trouve sympathique d'avoir pour ce concert de la Réformation un prêtre qui donne la méditation. C'est aussi parce que le week-end prochain, il y a le synode régional, et donc que mon cher collègue James Woody et moi-même serons, avec les délégués du conseil presbytéral de l'oratoire, à ce synode régional à Dourdan. Dimanche prochain, il y aura l'éducation biblique, donc pour tous les jeunes, enfants, petits-enfants, de tous les âges, pour un dimanche donc d'éducation religieuse. Maintenant, c'est le moment de l'offrande, et en ce deuxième dimanche du mois, l'offrande est destinée aux démunis par le biais du service de l'entraide. Que cette offrande soit la manifestation de notre louange, de notre reconnaissance et, je dirais, une consécration de nos moyens au service des plus pauvres. Merci Aurélien pour ce bel accompagnement à l'orgue de ce culte. C'est vrai que nous avons une reconnaissance pour nos organistes de ce service dimanche après dimanche. Ça met du cœur, de la sensibilité dans quelque chose qui, sinon, serait peut-être trop cérébral, je ne sais pas. Je vous invite à vous unir dans la prière. Seigneur, toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères et sœurs, nous pensons grâce à toi aux pauvres, à ceux qui ne trouvent pas de travail, à ceux qui se débattent dans des démarches administratives. Nous pensons devant toi aux victimes de l'injustice, à ceux qui se battent pour leur santé, à ceux qui sont en proie au deuil, deuil de quelqu'un qui leur est cher, deuil d'une situation qu'ils espéraient, deuil de diverses choses dans leur existence. Oui, Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous sont confiés, ceux que tu essayes de présenter devant nos yeux pour que nous ayons la parole juste, le geste qui aide, qui remet en route, qui relève, et que nous puissions ainsi être source de vie, de bonheur et de paix en ce monde. Ce monde sur lequel tu nous ouvres les yeux pour que nous y découvrions la merveille qu'il y a d'être vivant en ce monde avec nos frères et sœurs. Père, merci pour tout ce qu'il y a de beau dans notre vie, pour ceux qui nous aiment, pour la beauté de ce monde, pour la joie qui habite au plus profond de notre être, pour l'avenir que tu ouvres devant nous, pour l'espérance que tu nous donnes. Et unis dans une même foi en toi, en communion avec tous les frères et sœurs de toutes les églises chrétiennes, de tout lieu, de toute confession, de tous les temps, nous nous unissons du cœur à cette prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et puis nous recevons de Dieu la bénédiction qui nous est donnée au singulier, nous dit Moïse. L'Éternel te bénit, toi, et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Oui, Seigneur, sois auprès de chacun de nous. Amen.